vous ai posé une question.
Oui,
je voulais partir de l'exemple que vous aviez donné du petit enfant et du déménagement.
Ah oui.
On voit bien le, une notion de soins psychologiques par la parole. D'une deuxième étape, c'est un soin psychologique plus ou moins symbolique et quelquefois tellement symbolique qu'il enlève la parole et qu'il devient non respectueux de la personne. Et là, on est dans un débordement. Voilà. Et ma question est, comment se fait-il que ça marche? C'est-à-dire que beaucoup de diseurs de bonne aventure utilisent les cartes, mais en fait, ils agissent avec une intuition qu'ils ont sur l'autre et par de la parole qui fait que... Enfin, en fait, ils disent qu'ils ont un pouvoir, mais en fait, ils n'en ont pas et finalement, ils arrivent à faire un bon travail. Mais quand on est dans l'extrême, hein, on travaille. Ils arrivent à dire des vérités, pardon. Et en fait, dans l'extrême de tenir la main du petit gamin pour s'apercevoir des choses qui sont complètement médicales, ma question c'est comment ça marche. Ou en gros,
ça marche exactement de la même manière que ça marche l'histoire de la pédagogie du serpent. Il faut relire avec beaucoup d'attention ces premiers versets du chapitre 3 de la Genèse pour voir des scénarios qui peuvent être identiques. Vous savez, le serpent dit « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Il y a une vérité qui est dite là, mais qui devient fausse parce qu'il y a un élément qui change. De tous les arbres du jardin, effectivement, il y en a un qui ne doivent pas manger. Hein? Mais là, ça devient tous les arbres, vous voyez. Donc, le séducteur qui va par médiumité chercher des informations derrière le voile connaît partiellement le réel. Le problème ensuite, c'est de focaliser tout le réel sur cette situation-là. C'est peut-être vrai que cet enfant a eu un traumatisme à ce moment-là, mais ce n'est pas le tout de son histoire. Comprenez ? On va faire une perspective où on va focaliser sur tel truc pour en faire la vérité, le problème. Et c'est un problème aussi déontologique. À partir du moment où vous rentrez avec un thérapeute, vous écoutez ce qu'il va vous dire. Quelque part, vous pouvez rentrer dans le regard qu'il peut avoir sur vous. Focalisant sur tel ou tel événement de la vie, on peut ensuite reconstruire toute son histoire par rapport à cet événement qui aura été révélé. Donc on va enquister le passé dans cette perspective-là, qui peut être dans un premier temps libérante, parce que on a enfin découvert ce qui est à l'origine de tous nos maux. Mais qui dit que c'est la seule origine, vous voyez? Or, cet élément focal est exactement la technique du serpent. Est-ce que je suis clair? Et puis, vous voyez, il y a un autre truc très important au niveau du discernement. Le serpent propose de manger de ce fruit, de prendre le fruit, de le prendre. Mais Dieu veut pour nous la vie éternelle. Il veut pour nous la vie éternelle, Dieu. Mais le serpent veut chanter l'histoire, veut la raccourcir, veut la mettre dans son immédiateté. Et une des problématiques aussi des sciences occultes, c'est de rentrer dans cette immédiateté, de cette concupiscence, enfin de cette volonté de goûter tout de suite. Vous voyez? Regardez, c'est simple. Quand vous faites un cadeau aux enfants à Noël, hein, le cadeau fait avec tous vos soins, tout votre amour, toute votre attention, toute votre réflexion pour lui faire le plaisir inattendu. Si l'enfant ouvre le cadeau avant de le recevoir, il casse quelque chose de si important dans cette relation de filiation, de confiance. Eh bien, dans les sciences occultes, c'est un petit peu la même chose. On va déguster à l'avance, vous voyez. On va chercher par soi-même, on va prendre au lieu de recevoir.
D'autres questions ?
C'est difficile, c'est un ostéopathe, un très bon pratiquant en ostéopathie. Moi, j'y vais régulièrement. À un moment donné, quand il touche la tête et qu'il dérive, moi je peux le saigner, c'est tout ce que je peux faire.
Oui, c'est une bonne solution. De toute façon, la question qui nous habite et qui finalement sont autant d'incitation à retrouver une vie en état de grâce. En état de grâce. Et vraiment, il s'agit pour nous, à travers les soins de santé que nous désirons, avoir ce désir que l'on va retrouver dans les principes et fondements de Saint Ignace de Loyola, c'est de, voilà, d'être dans cet abandon confiant et d'être disponible à la volonté de Dieu. Et de se laisser conduire, comme le dit Ben Sirac le sage, de dire, voilà, quand tu es malade, repens-toi, demande pardon. Et ensuite, va voir le médecin parce que Dieu l'a créé lui aussi. Mais vous voyez, il y a quelque chose de très important là-dedans. Aujourd'hui, on va avoir foi dans son thérapeute, alors que la première des fois que nous devons avoir, c'est en Dieu. Vous voyez ? Et ensuite, je crois profondément que si nous sommes dans un climat d'état de grâce, de prière, si nous pratiquons le sacrement de réconciliation, si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, si nous mangeons cette nourriture qui est le corps et du Christ dans l'Eucharistie, nous sommes, à mon avis, plus conduits à détecter les ondes qui pourraient être négatives. Et c'est si vrai que des personnes qui, comme vous, ont fait cette expérience-là, eh bien, en état de confiance aussi, hein. Il ne faut pas être suspect préalablement, mais on peut avoir des antennes intérieures, un pif intérieur qui est, voilà. Et donc, il y a des thérapeutes qui fonctionnent dans l'énergétique et qui, d'une certaine manière, n'ont pas accès, vous voyez. Et parfois, ça peut les mettre en colère, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans cette intrusion, ils ne peuvent pas aller chercher derrière le voile. Je profite de cela pour dire que notre voisin Ambroise Paré avait sa devise qui était « Je le pense, mais c'est Dieu qui guérit ». Donc il s'agit aux thérapeutes, aux médecins, d'être dans le pansement, donc dans l'objectivation des gestes qu'il fait, des remèdes qu'il emploie, sans oublier que c'est toujours Dieu qui guérit. Le problème de ces médecines énergétiques ou de ces soins de guérison, c'est que le thérapeute se prend pour Dieu, pour faire très court.
Mais c'est une vraie grâce, ça veut dire que, comme dit Jean-Claude, n'ayez pas peur, donc on se prémunit.
Je crois que l'état de grâce nous conduit sur des justes chemins. Ça, je le crois. Oui. Mais vous voyez, voilà, regardez par exemple certaines méthodes ou certaines techniques, je crois en telle méthode, je crois en telle. Est-ce que vous dites je crois en l'aspirine? Vous prenez un cachet d'aspirine, vous voyez. Donc il y a une forme d'inversion, de croyance, et voilà. Donc il ne faut pas croire en son thérapeute, il faut croire en Dieu. Hein. Il ne faut pas croire en telle ou telle méthode. Hein. Enfin, ce sont des outils. Attention qu'il n'opacifie pas notre relation à Dieu.
Un ostéo qui vous pose les mains sur la tête et qui vous dit où vous avez mal, est-ce qu'on s'en va en courant ou...
Alors, je pense qu'effectivement, là, on est aux confins. Moi, j'étais avec un ostéopathe qui est venu travailler avec moi et qui touchait à peine et qui révélait à la personne que, par exemple, elle avait peur de tels petits animaux, etc. Donc, uniquement en interrogation mentale. Alors là, sauf qu'il peut. Si vous voulez, c'est, non. Non. Et c'est vrai en plus. Hein, et tout, il touchait des points qui étaient vrais. Mais vous voyez, là, vous rentrez dans une allégeance. Si vous rentrez dans ce type de rapport, vous rentrez dans une allégeance. Il n'est pas là en tant que technicien, je veux dire, qui pose un acte technique. Il est là dans une divination, si vous voulez. Et donc là, il y a une forme d'allégeance. Cette allégeance peut être opératoire. Il peut y avoir effectivement disparition des symptômes. On retrouve ça dans le magnétisme, dans certaines techniques, disparition immédiate des symptômes. Et il m'a guéri, vous comprenez. Mais non, il y a enfouissement des symptômes. Enfouissement de la symptomatologie qui peut, les techniques vous voyez, de toucher des zones, mais le père Dominique va nous parler de ça. Vous voyez, enfouissement des symptômes qui va se traduire par une angoisse plus profonde et par aussi un moindre goût pour les sacrements, pour la parole de Dieu. Je voudrais simplement dire un truc par rapport à la sophrologie. J'ai une amie vraiment qui était une recommençante, hein, et on a vraiment vécu des moments de partage magnifiques, d'adoration du Saint-Sacrement, de partage de la parole de Dieu, et goûter aux liturgies, c'était une recommençante. Elle a eu un cancer du sein, hein, et donc, dans le cancer du sein, après un petit peu de chimiothérapie, elle a été dans une clinique où on lui a proposé des exercices de sophrologie. Hein. Elle les a faits, et puis elle y a goûté. Elle a trouvé ça si bien de pouvoir se mettre soi-même dans certains climats qu'elle a trouvé de moins en moins de goût à la prière, à la parole de Dieu et aux liturgies. Aujourd'hui, elle est plus pratiquante, mais elle est dans son trip de sophrologie. C'est les deux. C'est les deux. Je crois profondément que nous sommes en manque de sens inouï. Mais inouï. Nous avons sous les yeux, nous sommes dans une génération qui est dans une rupture de filiation inouïe. Hein ? Il suffit de voir nos églises qui se vident. C'est pas. Il faut, voilà. On est dans une rupture générationnelle, de rupture de filiation inouïe. Mais voyez les enfants. Les enfants sont nourris par Harry Potter, par la pub à la télé, par les jeux vidéo, par ceci et par cela. Et ils passent pendant ce temps-là une heure de caté quand ils y vont, si vous voulez, ou parfois ils font un peu de bricolage, hein, où on ne leur fait mémoriser rien du tout. Alors qu'avant, on mémorisait au moins les actes de, voilà, deux fois de quoi. Vous voyez. Donc on est sur un terrain aujourd'hui qui peut recevoir, mais tout, quoi. Et précisément, le domaine de la santé ou du développement personnel propose effectivement l'épanouissement et la santé. Mais je suis atterré par ça. Vous voyez, je suis kinésithérapeute, je soigne parfois des personnes qui ne vont pas guérir, hein. Ma tante vient d'être hospitalisée, elle a eu un AVC, vous voyez, bon, on n'est pas... Vous voyez, on est dans une surenchère aujourd'hui de la santé et on n'est plus dans le réel. On n'est plus dans le réel. Notre réel, c'est quoi ? Notre réel, c'est que notre vie passe et passe vite, hein, et que l'objectif, c'est la vie éternelle. Donc on est en train de se raccrocher à des miroirs de pacotille qui nous donnent des semblants de mieux-être ponctuels, mais qui nous enferme dans d'autres situations. Enfin, vous voyez ce que je dis. Soyons dans le réel. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde. Et c'est aussi valable pour notre Église. Vous savez, il y a deux diacres permanents dans le diocèse du Mans. Il y a Paul, que tu as vu, hein, qui est un ancien bon people. Vraiment, il a donné sa vie au Seigneur, il l'a risqué, il était avec les Viet Minh, qu'ils l'ont enfermé à plusieurs reprises. C'est étonnant d'entendre son histoire. Et il a donné sa vie au Seigneur. Il a été bon people, il a été sauvé de manière extraordinaire. Et il est maintenant aumônier à l'hôpital psychiatrique. Mais si vous voulez, vous voyez l'épaisseur d'une vie donnée au Seigneur à travers ce pain quotidien qui lui a été donné. On n'est pas dans des histoires de bricoles. Un autre diacre est un diacre du Rwanda. Une partie de sa famille a failli, et lui-même a failli être massacré. Il a été 2000 kilomètres dans la forêt pour échapper avec la Bible à la main. S'il vous plaît, aujourd'hui, attention aux prières de guérison. Attention aux semaines où en une semaine on va guérir de tout. Même dans nos milieux chrétiens, où on va chercher dans notre passé le papa, la maman, la conception, ceci, cela. Non ! Il nous faut nous convertir ici et maintenant. Ici et maintenant. Il ne s'agit pas de rechercher sans cesse dans le passé ce qui aurait pu nous meurtrir. Il s'agit de nous convertir ici et maintenant. Oui.
C'est l'angoisse qui est inhérente à la vie. Doit trouver à être aménagé, contrôlé. Et cette angoisse, elle est surtout à toutes les étapes de la vie. Il ne va donc pas chercher à gérer cette angoisse au mieux avec ses parties.
Je vais vous raconter une petite histoire qui nous ramène à la Bible. Vous savez comment on dit angoisse? En hébreu, on dit Misraïm. Et Misraïm, c'est le pays de l'angoisse. Et Misraïm n'est rien d'autre que l'Égypte. Or, l'Égypte, le pays le plus hautement technologique de l'époque, à tout point de vue, médecine, philosophie, théologie, agriculture, architecture, était le pays de l'angoisse. Et il a fallu que précisément le peuple hébreu sorte du pays de l'angoisse. Vous savez qu'il y avait aussi des magiciens au service de Pharaon et qui étaient capables aussi de prodiges étonnants, étonnants. Et il a fallu que ce soit Moshe qui reçoive cette recommandation avec le buisson ardent. Vous savez, qu'est-ce que dit le buisson ? Le buisson lui dit, dans un premier temps, ôte tes chaussures, car le lieu que tu foules est un lieu saint. Ôter ses chaussures, c'est déjà une première indication d'une disponibilité à la fragilité. Nous ôtons nos chaussures quand nous rentrons chez nous dans l'intimité. C'est plus une question de travail, c'est plus une question de performance, c'est plus une question d'opératoire, c'est une question de fragilité. Et c'est dans cette réception, dans cette disponibilité, dans cette fragilité, que Dieu va lui dire, va libérer mon peuple, qui est dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Le pays où ça serre. Angoisse, ça veut dire angor, ça veut dire ça serre. Et ça serre à la gorge, ça serre à la nefesh, à l'âme, hein, quand on est bien coincé comme ça. Et donc il va lui dire ça. Et Moïse va lui dire, mais qui vais-je annoncer ? Et c'est là où Dieu, dans le buisson, va lui dire, va lui révéler son nom, Yod et Vav, et j'étais, je suis, je serai. Et c'est uniquement en disponibilité de ce nom-là qu'il va pouvoir aller dans le pays de l'angoisse et affronter les plus hautes magies. Dans la frustration, parce que ça va être l'objet de toute une thématique d'une soirée. Donc voilà.
Il y a un article qui est en ligne sur le site.
Voilà. De Mona Michael, avec qui je suis en lien, qui est une Canadienne qui a fait un travail absolument mais remarquable. Et je l'ai eu au téléphone, ça m'a beaucoup impressionné parce que vraiment, hein, elle avait enlevé ses chaussures et en disponibilité de la parole de Dieu pour affronter ça. C'est incroyable ce qu'elle a pu découvrir. Je vous en partagerai quelques mots entre autres.
Par rapport à Harry Potter, est-ce que vous savez qu'il y a un ouvrage qui est paru qui concerne à la fois, qui peut étudier de la guerre des boutons à Harry Potter ? Vous connaissez ?
Non, ça je ne connais pas, non.
Alors, c'est un ouvrage qui a été travaillé par un psychiatre, dont Jean-Marie Gauthier, qui est un psychiatre belge, qui a travaillé la question, en quoi on était passé de la guerre des boutons, qui est l'actualité aujourd'hui. En tant qu'ouvrage de Bergot, de Bergot, mais aujourd'hui, les ados, enfin les jeunes, ne jouent plus à l'air de bouton qu'au cinéma, mais vont voir Harry Potter. Et qu'est-ce qu'il y a de commun, cet ouvrage de Jean-Marie Gauthier, traite de la question de l'air de bouton à Harry Potter.
La question, si vous voulez, d'Harry Potter, mais je ne veux pas monopoliser là-dessus, je voudrais quand même dire un mot. Ne peut pas s'étudier que de manière sociologique ou de manière parce que il y a quelque chose dans Harry Potter que nous ne retrouverons jamais dans les contes, c'est l'aspect ésotérique. Et tant qu'on n'a pas les clés de la théosophie des gnoses qui sous-tendent les différentes initiations de type occulte d'Harry Potter, nous n'avons pas les clés. Je donne juste un exemple. Il y a dans Harry Potter une dénommée Blavatsky. Blavatsky, ce n'est autre qu'une contrepétrie de Blavatsky, qui est une des grandes prêtresses de la théosophie luciférienne. C'est tout. Donc, tant qu'on n'a pas été jusque-là dans la lecture, vous voyez, des niveaux occultes, nous ne sommes que dans la superficie de ce que le grand public gobe.
Qu'est-ce que vous pensez ? Vous pouvez simplement dire qu'une revue comme Famille chrétienne, quand il cite Harry Potter, il y a au moins deux petits cœurs, sinon trois, pour recommander cette lecture. Heureusement, j'entends les grands-parents et l'un pour freiner en disant attention, danger. Et ça m'a toujours choqué de voir ça dans Famille chrétienne, qui par ailleurs est très bon.
Qu'est-ce que vous pensez de l'instinct autothérapie ?
Ah oui, mais ça, c'était l'histoire d'un monsieur là, qui a été d'ailleurs condamné à un moment parce qu'il préconisait de manger ce dont on avait besoin, mais cru. Ah oui, on respire la nourriture, on essaye de voir. On est là, écoutez, excusez-moi, mais on est là dans la vache.
Qui les vivent autour d'eux et qui les présentent. Et ça, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui vraiment m'interroge beaucoup. Je me rends compte que on a, les gens qui enseignent le catéchisme ne sont plus dans la foi.
C'est beaucoup dire, il faut que je nuancer parce que c'est... On est plus dans le par cœur, en fait, le catéchisme. On est au-delà. Mais il y a des catéchistes qui veulent s'exprimer. Bien sûr, il y a des catéchistes, le catéchisme de ma paroisse.
Simplement, ce n'est pas dans la condition de la relation avec le Seigneur.
Oui, c'est ça.
Simplement ça.
C'est certain que commencer par un temps de prière, de disponibilité à Dieu, d'accueil de l'Esprit Saint, ça peut permettre ensuite l'écoute de la parole de Dieu, donc le fruit. On va peut-être arrêter là, sauf s'il y a encore une question majeure, et quand vous commencez à avoir France, peut-être. À suivre. La prochaine date, est-ce que quelqu'un va sous la
main? C'est le 20 octobre.
Le 20 octobre, voilà.
Merci à tous ceux qui sont venus de loin. Hein, mais...
On va peut-être terminer en chantant le Magnificat, la prière de la main, parce que vous avez suggéré.
Oui, en plus il est pas